C'est un grand plaisir de vous avoir tous aujourd'hui ensemble parce que le séminaire de français médiéval a essayé ou a désiré être très interdisciplinaire ce trimestre. Nous avons parlé de musique lors du dernier séminaire et aujourd'hui nous sommes très heureux de pouvoir parler d'histoire et de philosophie et d'histoire, d'histoire de la philosophie, c'est un peu tous ces sujets-là. Bien sûr, je pense que vous connaissez tous notre conférencier de ce soir, monsieur le professeur Alain de Libera, qui a été pendant plusieurs années professeur à Paris, professeur à Genève, qui a été aussi, et ça m'a fait très plaisir de l'apprendre, invité dans diverses universités en Belgique, puisque c'est mon pays aussi, et qui est maintenant, bien sûr, au Collège de France. Donc, nous sommes très, très heureux de l'accueillir aujourd'hui, aussi parce que quand on a un petit peu discuté ensemble, justement, de la présentation d'aujourd'hui, j'ai pensé qu'il y avait beaucoup de textes dont on a parlé déjà lors du séminaire, dont les étudiants parlent lorsqu'ils font de la littérature médiévale, pour lesquels le contexte philosophique et théologique est extrêmement important. Donc, c'est vraiment vital et crucial que vous puissiez nous parler de tout ça aujourd'hui. Et je vous laisse présenter aujourd'hui, je vais lire le titre convenablement, « Vouloir, Will et Louloir, Nil dans la philosophie médiévale, Augustin Abélard Buridan ».
Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette invitation, remercier Baylor College est la maison française d'Oxford qui nous accueille tous et toutes ce soir. Alors, mesdames, messieurs, la Fédération internationale de football association me suis-je laissé dire pendant que je préparais cette intervention, décidé d'interdire le coquelicot sur les maillots des footballeurs et rugbymen anglais. Alors, nous sommes aujourd'hui le 22 novembre. Le 21 novembre 1916, il y a un siècle, le général Haig décidait l'arrêt des offensives britanniques et mettait ainsi un terme à l'effroyable boucherie qu'a été la bataille de la Somme. Je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler cela dans cette circonstance. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le papy et les coquelicots, mais en tout cas, j'ai éprouvé un sentiment d'indignation très grand, tout français que je suis. De l'autre côté de la Manche, nous voilà bien loin de la philosophie médiévale, direz-vous, et bien loin de la distinction entre vouloir et nouloir. Eh bien non, nous en sommes tout près, au contraire, très près, et c'est à l'un des protagonistes de la Première Guerre mondiale que j'emprunterai la phrase qui constituera mon point de départ. Il s'agit d'une personnalité remarquable, quelqu'un que j'oserais qualifier de « people », Friedrich, enfin plus exactement Wilhelm, der Erste, Guillaume Ier de Hohenzollern. Alors, voici un coquelicot, l'objet du délit. Et voici maintenant le personnage en question, Guillaume Ier, avec la célèbre phrase que vous trouveriez, par exemple, dans le château du Haut-Königsbourg en Alsace, c'est dans la salle des gardes, sur l'une des cheminées. Ich habe es nicht gewollt. Je n'ai pas voulu cela. Ceci est une carte postale de 1915 qui a connu une très très grande diffusion pendant la Première Guerre mondiale. Je n'ai pas voulu cela. Et pourtant, il l'a eu, et tout particulièrement les soldats que l'on devine enterrés sous ce casque à pointe. Alors, menteur, Guillaume Ier pourrait répondre, je n'étais pas libre de faire ce que je voulais, ou bien j'ai fait autre chose que ce que je voulais, ou bien on a fait autre chose que ce que je voulais. Pourtant, direz-vous, il était l'empereur, der Kaiser. Donc, réponse de l'empereur, oui, certes, mais je n'étais pas tout puissant. Et pourtant, on retrouve le même mot dans la bouche du Tout-Puissant. Nous savons ce que qu'a pensé le Tout-Puissant de cette boucherie qu'était la guerre de 14. Grâce au dernier jour de l'humanité, la pièce de Karl Kraus, dont voici les derniers mots. Stimme von oben, une voix d'en haut. Der Sturm gelang, die Nacht war wild, zerstört ist Gottes Ebenbild. Großschweigen, die Stimme Gottes, ich habe es nicht gewollt. Dernier jour de l'humanité, scène finale, une voix d'en haut, l'assaut a réussi, dans un combat furieux, et détruit ce qui fut à l'image de Dieu. Grand silence, la voix de Dieu, je n'ai pas voulu cela. Je n'ai pas voulu cela. Donc on retrouve les mêmes mots dans la bouche de l'empereur et dans celle du Tout-Puissant. C'est un signe, il nous faut aller plus loin dans l'analyse du vouloir et du ne pas vouloir. Cela veut dire pour nous qu'il nous faut travailler probablement la distinction entre will et nil, entre qu'on le veuille ou non, bon gré, mal gré, willy, nilly, nolens, wolens, wolens, nolens. Je m'appuierai, étant médiéviste, sur trois auteurs qui sont mentionnés dans mon titre, Augustin, Abélard et Buridan, mais je ne suivrai pas l'ordre chronologique. Je parlerai, vous le verrez, d'abord de Buridan, puis d'Abélard, et je terminerai par Augustin. Je commencerai donc, et je vous invite à considérer à présent votre exemplier, comme on dit, par ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle le problème de Locke. De John Locke, donc, la question, le problème de la liberté. La formule que vous lisez en anglais dans le texte numéro 1 est un résumé que donne du problème de Locke le grand philosophe mentionné au paragraphe 4, Roderick Chisholm. La question de la liberté, comme le disait John Locke, ne consiste pas à savoir si la volonté est libre, mais si un homme est libre. Donc, le sujet de la liberté n'est pas la volonté, mais l'homme même. Car s'il existe une volonté en tant que faculté initiatrice, motrice, susceptible de mettre en mouvement un individu, provoquer quelque chose, la question est de savoir si l'homme est libre de vouloir faire les choses qu'il veut faire et s'il est libre de ne pas vouloir les choses qu'il veut faire et également s'il est libre de vouloir les choses qu'il ne veut pas faire. Trois questions que vous retrouvez au numéro 2 de l'exemplier. Trois questions qui en induisent une quatrième. Quand ? Autrement dit, l'homme est-il libre de vouloir faire les choses qu'il veut effectivement faire ? Quand ? En les faisant, au moment où il les fait, ou bien juste avant de les faire ? Avant, pendant, voilà une distinction que nous devons nécessairement intégrer aux trois questions que j'ai posées, et vous verrez que tout roule là-dessus au Moyen-Âge, aussi chez Augustin, donc dans l'Antiquité tardive, pendant, avant. Alors, pour des raisons qui apparaîtront, je numérote vouloir faire et ne vouloir pas faire, pas vouloir faire, 1 et 4, et je les dispose au coin opposé d'un carré invisible. Donc, deux difficultés. Vouloir faire, ne pas vouloir faire. À quel moment? Quand? Avant? Pendant? Deuxième difficulté. L'introduction de nouloir dans ce dispositif. Revenons au handout. L'exemplier, comporte une entrée numéro 3 qui distingue trois verbes latins. Welle, nolle, non welle. En français, vouloir, nouloir, ne pas vouloir. Dans l'un des premiers grands dictionnaires philosophiques publié en 1653 à Iéna par Micrarelius, plus connu, c'est beaucoup dire peut-être, sous le nom de Johannes, enfin sous son nom en l'occurrence, Johannes Lütkeschwager, dit Micrarelius, peut-être plus facile à prononcer d'ailleurs, vous trouvez la phrase suivante. Voluntatis functiones sunt velle et nolle, aliqui tamen distinguunt inter nolle et non velle, quasi id nolimus quod impedimus, id autem non velimus quod permittimus cum detestatione. Les fonctions de la volonté sont vouloir et nouloir. Cependant, certains distinguent, dit Micrarelius, entre nolle, nouloir, et non velle, ne pas vouloir. Pour dire que, au sens où, nous noulons, id nolimus, ce que nous refusons, empêchons, rejetons. Mais retenez, empêcher. Id autem non velimus, mais nous ne voulons pas ce que nous permettons, ce que nous laissons être, avec répugnance ou en détestant cela. Donc d'un côté, s'opposer à, de l'autre, laisser faire, même avec dégoût. Donc, nolle et non velle disent deux choses tout à fait différentes. Pour illustrer cette distinction, rejoindre à la fois la philosophie la plus actuelle et le Moyen Âge, je reviens à Roderick Chisholm, qui, comme vous le voyez, entrée numéro 4, a vécu de 1916 à 1999. Il est mort au seuil du 21e siècle. Dans un de ses textes très célèbres, Human Freedom and the Self, Chisholm prend l'exemple d'un pot de vin, a bribe, pour distinguer trois sortes de relations qui nous rapportent, nous les humains, à un méfait dont nous envisageons la réalisation. A misdeed that we contemplate. Alors, Chisholm dit, la question de la liberté n'est pas de savoir si nous sommes ou non capables de réaliser ce méfait. La question est plutôt, comme le notait déjà Saint Anselme, as Saint Anselm noted, est plutôt de distinguer entre quatre possibilités. Donc, illustration de ces quatre possibilités avec l'exemple du bribe, du pot de vin. Quelqu'un, face à la situation suivante, un pot de vin de 10 000 dollars est déposé dans son jardin, à côté du garage, n'est-ce pas? Et la question se pose de savoir ce qu'il va faire relativement à ce pot de vin. Alors, il peut, première situation, il peut tout faire pour précisément que cela se réalise, que le pot de vin soit déposé et qu'il le perçoive lui-même. En latin, facere esse. Deuxièmement, il peut ne rien faire pour que cela se produise. Non facere esse. Troisièmement, il peut faire quelque chose pour que cela ne se produise pas, c'est-à-dire pour que le pot de vin ne soit pas déposé. Et par exemple, en dénonçant la personne qu'il veut le corrompre. Et enfin, il peut être incapable de faire quoi que ce soit et donc il peut se trouver dans la situation où il ne fait rien pour que cela ne se produise pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il fait tout pour que cela se produise. Donc voilà les quatre possibilités que vous pouvez retrouver très facilement en réfléchissant à une situation où effectivement on tenterait de vous corrompre. Alors, le texte d'Anselme de Canterbury auquel se rapporte Chisholm fait partie de textes d'Anselme qu'on a trouvé dans les années 30, 1930, et c'est un des textes contenus dans ce qu'on appelle les fragments Lambeth, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un manuscrit qui se trouvait dans cette célèbre bibliothèque. Le texte numéro 5 vous donne en latin la distinction que fait Anselme, deuxième ligne, omne igitur facere dici potest, aut facere esse, aut facere non esse, quae duo sunt affirmationes contrarie, quarum negationes sunt non facere esse et non facere non esse. À partir de là, on obtient ce que l'on peut appeler le carré logique du faire-être, the square of doing, facere esse, qui oppose, donc texte numéro 6, facere esse, faire-être, qui s'oppose à facere non esse, le numéro 2. Vous trouvez en position numéro 3, non facere non esse, et en position 4, non facere esse. Ceci est un carré logique, et cela a été bien repéré par Sarah Uckelman dans ce qu'elle a mis en place sous le titre de l'Adjective Square of Opposition, que vous avez dans l'exemple numéro 7, qui vous montre la différence inscrite sous forme de carré logique entre to cause to be, to cause not to be, not to cause not to be et not to cause to be. Bon, c'est les quatre possibilités existantes, celles qui ont été mentionnées par Chisholm, celles que relevait déjà Anselme de Canterbury. Et si l'on parle de carré logique, c'est que, comme vous le voyez, les quatre possibilités qui sont instanciées ici sont liées par des relations qui sont, dans un cas, celle de la contrariété et dans l'autre, celle de la contradiction. Autrement dit, A et B, to cause to be et to cause not to be, sont des contraires, alors que to cause to be et not to cause to be, A et D, sont des contradictoires. Alors, sur le même modèle, vous pouvez, et je reviendrai sur ces contraires et ces contradictoires, rassurez-vous, ainsi, ou soyez inquiets, au contraire, et sur l'appellation de carré logique. Mais cela continue avec le carré logique du vouloir, the square of willing, willé, et on va voir que cela complète d'une certaine manière ce que j'avais laissé au tableau sous forme incomplète, un carré virtuel, disais-je, avec deux coins seulement remplis. Vous avez vouloir. Le contraire de vouloir, numéro 2, c'est vouloir que ne pas. Vous avez ensuite 3, ne pas vouloir que ne pas, qui est le contradictoire de vouloir que ne pas. Et vous avez en numéro 4, ne pas vouloir, qui est le contradictoire de vouloir. Au carré logique du vouloir, on peut associer et ajouter le carré du vouloir faire. The square of willing to do, facere esse, s'ajoutant à willé. Et c'est le carré numéro 9. Alors, dans ces Lindley Lectures, dans celle de 1964, Chisholm, texte numéro 10, explique que c'est une chose que de demander si ce qu'un homme veut faire est en son pouvoir réellement. Cela, dit-il, c'est le problème de l'acte impéré, actus imperatus. Tiens, il parle latin à nouveau. Oui, il reprend une distinction médiévale. Et c'est une chose bien différente de se demander si sa volonté de faire ce qu'il veut faire est en son pouvoir. Et cela, c'est le problème de l'acte illicité, actus illicitus. Donc il faut bien distinguer le problème qui est celui de la capacité de faire ce qu'on veut, qui est la définition qu'on donne en général d'une façon assez superficielle de la liberté. La liberté, c'est faire ce qu'on veut. Non. La liberté, dit Chisholm, s'appuyant sur une distinction médiévale, ça n'est pas tant de savoir si l'on est capable de faire ce que l'on veut que de savoir si on est capable de vouloir ce que l'on veut, si on est libre de vouloir ce que l'on veut. Voilà le vrai problème de la liberté, qui est le problème non pas de la liberté de la volonté, mais de la liberté de l'homme. L'homme est-il libre de vouloir ce qu'il veut ? Alors, ce dispositif que vous avez ici virtuellement et que vous avez dans l'exemplier sous plusieurs formes différentes, je l'appelle carré logique parce qu'il y a des relations logiques entre les quatre qui sont clairement indiquées sur le carré de Sarah Huckelmann avec contraire et contradictoire. Les propositions 1 et 4, par exemple vouloir et ne pas vouloir, sont des contradictoires. 1 et 2, vouloir et vouloir que ne pas, sont des contraires. Ici, nous revenons tout bêtement, tout simplement, à Aristote et à son carré logique et aux distinctions que fait Aristote d'un point de vue logique entre les contraires et les contradictoires. Les contradictoires et les contraires ont des propriétés logiques, en effet, qui sont bien connues depuis Aristote. Et le premier carré logique, qui n'a pas été dessiné par Aristote, mais par un platonicien de l'époque médio-platonicienne, Apulée, peu importe, en tout état de cause, ce qu'il vous faut tenir présent à l'esprit en ce moment, c'est la distinction entre les propositions dites universelles affirmatives, qui seraient du côté supérieur gauche du carré, et que l'on désigne dans la philosophie médiévale par la lettre A. Tout ce qui est grand A, ce sont les propositions universelles affirmatives. Alors vous allez me dire, mais pourquoi cela ? Eh bien, les médiévaux ont désigné par A les propositions universelles affirmatives en s'appuyant sur le mot affirmo, j'affirme. Grand A, première lettre, première voyelle de affirmo égale proposition universelle affirmative. I, ça va désigner la particulière affirmative. O et E viennent de nego. Donc vous avez A, E, I, O. Nego, le E, c'est l'universel négatif, et O, c'est la particulière négative. Alors quelques exemples. Universel affirmative, tous les chats sont gris. Universel négatif, aucun chat n'est gris. Particulière affirmative, quelques chats est gris, il y a des chats qui sont gris, bon. Quelques chats est gris, et particulière négative, quelques chats n'est pas gris. Donc avec ces quatre-là, A, E, I, O, vous avez le carré logique des oppositions, donc entre contraire et contradictoire. Quelles sont les propriétés, maintenant, et rassurez-vous, c'est le dernier effort qui est demandé d'un point de vue logique, quelles sont les propriétés logiques des contraires et des contradictoires ? Les contraires, donc l'universel affirmatif, tous les chats sont gris et aucun chat n'est gris, l'universel négatif, ne sont jamais toutes deux vraies en même temps. Mais elles peuvent être fausses toutes les deux en même temps. En revanche, les contradictoires, l'opposition entre une universelle et une particulière dans l'affirmation ou dans la négation, ne sont jamais ni vraies ni fausses en même temps. Ce qui veut dire que de deux propositions contradictoires, il y en a toujours une de fausse. Et si l'une est vraie, l'autre est fausse. Si l'une est fausse, l'autre est vraie dans les deux contradictoires. C'est tout cela que nous allons retrouver en abordant à présent nos trois témoins médiévaux. Il faut bien avoir ça en tête. Les contraires peuvent être fausses en même temps. Les contradictoires ne peuvent jamais ni être vraies ni être fausses en même temps. Et de deux contradictoires, l'une nécessairement est vraie, l'autre fausse. Si on a ça en tête, on a ce qu'il faut pour avancer dans ce monde logique médiéval qui, effectivement, nous attend de pied ferme avec deux des plus grands logiciens du Moyen-Âge, un du XIIe siècle, Abélard, l'autre du XIVe, Jean Buridan. Alors, si vous le permettez, je vais commencer par la fin. Je commence par Buridan, le plus tardif. Par Buridan et même par un élève de Buridan, un auteur du XVe siècle, Bartholomé Arnold de Hüssingen, qui, comme vous le voyez dans l'exemple numéro 12 de mon exemplier, est né en 1464 et est mort en 1532. Cet homme est intéressant car ça a été le maître de logique à Erfurt de Martin Luther. Donc toute la culture philosophique de Luther lui vient de ce Bartholomé Arnold de Hüssingen. Et dans le texte numéro 12, vous voyez que Hüssingen dit « Communiter dicitur, voluntatem esse liberam in actibus contradictoris, quales sunt velle et non velle, nolle et non nolle, sed non contrariis ut putais velle nolle acceptare refutare. » Donc, on dit communément, c'est-à-dire communitaire ici, est un mot de l'université. Quand on soutient quelque chose communitaire, ça veut dire que l'ensemble des maîtres se sont mis d'accord pour enseigner que. Donc, communitaire dicitur, ça veut dire qu'on le dit à Erfurt, et que c'est la doxa professionnelle, si l'on peut dire, mais ça veut dire aussi qu'on le dit de façon très commune au XVe siècle. C'est le point de vue dominant. La volonté est libre dans les actes contradictoire, mais ne l'est pas dans les actes contraires. Donc, par là, vous avez une première image du Moyen-Âge, de mon Moyen-Âge, si je peux dire, du Moyen-Âge des philosophes, où vous voyez qu'on peut poser des thèses aussi brèves, aussi incisives et aussi terriblement abstraites qui font qu'on se dit, mais de quoi parle-t-il ? Le problème, c'est qu'on a intérêt à le savoir, puisque cela commande tout le champ de l'éthique. Alors, vouloir et nouloir, autrement dit, vouloir et vouloir que ne pas, qui sont des contraires, ne peuvent être vrais en même temps. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas en même temps vouloir et vouloir que ne pas. Mais ils peuvent être faux en même temps. C'est-à-dire, il peut se trouver une situation où ni vous ne voulez, ni vous ne voulez que ne pas. Vouloir et non vouloir, qui sont des contradictoires, ne peuvent ni être vrais en même temps, ni être faux en même temps. Alors, reprenons pour comprendre ce qui, j'en suis sûr, vous paraît quand même particulièrement raide. Eh bien, reprenons sur notre PowerPoint l'exemple du Square of Willing. J'ai montré que l'on ne pouvait pas à la fois vouloir et vouloir que ne pas. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas avoir vouloir vrai et vouloir que ne pas vrai. Donc, willé, nolé ne peuvent pas être simultanément vrais, mais ils peuvent être simultanément faux. C'est-à-dire qu'il peut se trouver une situation où ni vous ne voulez, ni vous ne voulez que ne pas. Laquelle ? Eh bien, la quatrième, celle où il y a non willé, c'est-à-dire celle où il y a tout simplement pas vouloir. Et dans le cas où il y a non willé, où il y a absence de vouloir, il n'y a évidemment ni vouloir que ne pas, ni vouloir, ni nouloir. Autrement dit, là où vous vous abstenez de vouloir, il n'y a plus ni vouloir que ne pas. Voilà la seule liberté qu'est l'homme. Il n'est pas libre, si vous voulez, dans l'homme n'est pas libre de vouloir à la fois et de vouloir que ne pas. Mais il est libre de s'abstenir de vouloir. Il peut suspendre son vouloir. Il peut se mettre dans un état où il ne veut pas. Donc, où ni il veut quelque chose, ni il veut que la dite chose n'arrive pas. Ni l'un, ni l'autre. Il suffit de se retirer du vouloir. Donc, voilà pourquoi l'on peut dire que la volonté n'est pas libre dans les contraires, mais qu'elle est libre dans les contradictoires. Il vous appartient toujours de vouloir ou, au contraire, de ne pas vouloir, même s'il ne vous appartient pas, de vouloir ou de vouloir que ne pas. Bon, voilà la thèse. Alors, elle est pour nous assez contre-intuitive, mais on a quand même quelque chose qui correspond à l'intuition, qui est qu'on peut toujours s'abstenir de vouloir. Alors, quelques mots sur Buridan. Tout ça est très abstrait, mais ça n'est pas fini. On connaît Buridan pour l'âne de Buridan. Vous avez tous entendu parler de l'âne de Buridan. Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas d'âne de Buridan. Hein. Mais il y a un chien de Buridan. Et le chien de Buridan est exactement dans la situation de l'âne de Buridan, qui est en fait la situation d'un homme dans le De Caelo d'Aristote. Car le fameux âne de Buridan n'est rien d'autre qu'un homme dont Aristote avait déjà donné, au fond, la douloureuse décrit la douloureuse situation dans le De Caelo et la réponse totalement inappropriée qu'il lui apportait. C'est l'exemple que donne Aristote, celui d'un homme qui, affligé d'une faim et d'une soif très vives, mais d'une égale intensité, donc j'ai faim, j'ai soif, même niveau, aussi faim que soif, aussi soif que faim, se trouve à égale distance d'un sandwich et d'une bonne bière, hein, à égale distance des aliments et des boissons. Eh bien, disait Aristote, il demeurera nécessairement immobile. Buridan a mis un chien à la place de l'homme. Il n'est pas le seul. Dante a fait exactement la même chose. Il y a dans la Divine Comédie la description d'un homme libre entre deux mets également distants et attirants. Un homme libre mourrait de faim avant de porter l'un des deux à ses dents. Ceci est la traduction de Dante par la même. De même, entre deux rages de loups féroces, l'agneau resterait quoi ? Craignant également. Et de même, un chien entre deux daims. Donc, vous voyez, c'est faute de pouvoir se décider, on en meurt. Hein. On meurt de pouvoir. Alors, quelques mots sur Buridan lui-même. Je dois faire ce petit excursus parce que je pense que c'est l'occasion de réfléchir sur l'histoire médiévale, sur le statut du Moyen-Âge en histoire de la philosophie, mais aussi en histoire tout court, dans la culture, dans la littérature, dans l'imaginaire. Je reviendrai ensuite sur la question de la liberté et des contraires. J'ai associé dans mon titre Buridan et Abélard. Je ne suis pas le premier à le faire. C'est François Villon qui les a associés le premier. Et l'un et l'autre, Buridan et Abélard, ont en commun pour François Villon d'avoir payé cher ils ont failli payer cher leurs amours. Abélard avec Héloïse et Buridan avec la reine de France, Marguerite de Bourgogne, l'épouse infidèle d'un des trois fils de Philippe le Bel, premier à lui avoir succédé, le premier des successeurs de Philippe le Bel, le roi maudit, n'est-ce pas, bien connu depuis le roman de Maurice Druon. Donc ce premier successeur de Philippe le Bel, c'est Louis X le Hutin, Hutin signifiant le colérique, le coléreux. Et le texte de Villon est très connu, c'est la ballade des dames du temps jadis, dont vous avez les deux passage qui concerne nos héros, qu'il faudrait savoir prononcer. Là, je me tourne vers Sophie, parce que il y a certainement une manière de prononcer cela qui rend la chose plus poétique. Où est la très sage Héloïs, pour qui fut châtrée, et puis, alors je présume qu'on dit Mouenne, hein, et puis Mouenne, Pierre Esbaillard à Saint-Denis, pour son amour eut cette Essouenne. Semblablement, où est la Rouenne qui commanda que Buridan fût jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? Alors, ces deux... C'est très beau quand même, hein? Mais bon, ces deux textes nous conduisent directement à la tour de Nesle, puisque, outre la ballade des dames du temps jadis, le malheureux Buridan a fait les frais d'un drame de Frédéric Gaillardet et Alexandre Dumas, père, intitulé La tour de Nesle, 1832, et d'un roman de Michel Zévaco, L'Alexandre Dumas du pauvre, n'est-ce pas? Qui est l'auteur du Capitan, cher à tous les amoureux de Jean Marais, l'acteur français qui était spécialiste des films de cap et d'épée quand j'étais jeune. Et ce roman de Michel Zévaco s'intitule Buridan, le héros de la tour de Nesle, qui a été publié en feuilleton dans la petite République socialiste, un journal, entre le 11 décembre 1905, avant d'être porté à l'écran pas moins de 8 fois, dont une fois en 1954 par Abel Gance. Alors ici, pour le plaisir, j'ai quelques exemples des nombreuses avanies qu'a subi le personnage de Buridan dans le cinéma français et italien. Voici en 1909 La tour de Nesle, d'André Calmette. Alors vous apercevez la reine meurtrière, n'est-ce pas, qui s'apprête à assassiner un de ses amants. Vous avez ici, alors j'adore ça, de Pierre Marodon, qui est complètement oublié aujourd'hui, 1924, cette publicité extraordinaire. Il y a film à épisode et film à épisode, mais il n'y a qu'un seul Buridan, le héros de la tour de Nesle, d'après Michel Zévaco, édition Taillandier, film français, bon, etc. Après, nous avons en 1937 Gaston Roudès, La tour de Nesle, j'y reviendrai, avec ici quelques exemples de la façon dont on se représente la reine incestueuse et ses compagnes et leurs amants dans La tour de Nesle. L'aspect médiéval de la chose ne saute pas aux yeux. Je passe rapidement sur un passage scabreux. Nous allons maintenant chez Émile Cousinet, 1951, qui a donné une version de la tour de Nesle, qui a eu un grand succès. Et vous avez ici la version italienne, La Torre dei Miracoli. Ce Cousinet, on lui doit effectivement. Alors, une version, disons, de l'âne de Buridan. Alors, si vous demandiez ce qu'était l'âne de Buridan, voici la version Cousinet. L'âne de Buridan apparaît ici sous la forme du poisson d'avril, April Fool, hein, que l'on accroche dans le dos en manière de plaisanterie, n'est-ce pas? Et vous avez ici donc un âne accroché dans le dos de Buridan par de mauvais plaisants. Ensuite, on a eu le film d'Abel Gance en 1954. Il faudrait être spécialiste d'iconographie et s'intéresser aux costumes, à la manière dont on représente des personnages du Moyen-Âge. On arrive au sommet que représente l'étreinte de Buridan et de la reine incestueuse. Vous avez ici, enfin un fidèle plus exactement, mais l'inceste concerne plutôt les images ici, enfin, entre le Moyen-Âge et je ne sais quelle époque improbable. Donc vous avez Pierre Brasseur et Miss Italie, Silvana Pampanini, qui a l'air de la reine de Saba, lui du duc d'Albe ou je ne sais quoi, mais c'est censé être le Moyen-Âge. Donc, vous voyez qu'on vient de loin lorsqu'on est médiéviste, puisque ce que les gens ont en tête, ce sont des images de ce genre qui n'ont rigoureusement aucun rapport avec le véritable Moyen-Âge. Buridan a un second point commun avec Abélard, en dehors de la référence de François Villon. Il a laissé, comme lui, une analyse logique de l'adultère, qui montre bien la différence d'approche entre un auteur du XIVe siècle et un auteur du XIIe. qui montre bien la différence de corpus aussi, et je dirais d'horizon philosophique, ou comme on pourrait dire en termes foucaldiens, de champ de présence, c'est-à-dire de type d'énoncé, de thèse, d'arguments qui sont disponibles à un moment donné pour penser un problème, faire une distinction, poser un argument. Alors, je reviens à Buridan et à la question des contraires, cette terrible question des contraires. Ce qui nous intéresse, c'est cette thèse. Pourquoi la volonté n'est-elle pas libre de vouloir dans les contraires, alors qu'elle l'est dans les contradictoires? Alors, je voudrais vous rappeler que le 7 mars 1277, l'évêque de Paris, Étienne Tempier, s'appuyant sur les travaux d'une commission de théologiens, a condamné, parmi les 219 thèses interdites d'enseignement en mars 1277 à l'Université de Paris, hein, 219 thèses, la thèse numéro 163 de son syllabus disait que, c'est l'exemple numéro 14 dans votre exemplier, cette thèse disait que la volonté poursuit nécessairement ce qui est cru fermement par la raison. Et elle ne peut pas s'abstenir de ce que la raison lui dicte. Donc vous avez ici une thèse, la thèse d'Aristote, hein, une thèse qu'on dit aristotélicienne, qui est ici condamnée, une thèse qu'on appelle aujourd'hui caractéristique, disons, qu'on présente comme caractéristique du nécessitarisme aristotélicien. Vouloir, c'est consentir, c'est assentir, c'est donner son assentiment, consensus, assensus en latin, à un jugement. Et, ou refuser, évidemment, son assentiment à un jugement. Mais il y a évidemment la question de la liberté, c'est de savoir si on peut ou non refuser son assentiment à ce que dicte la raison pratique, à ce que vous propose la raison, ce que vous indique, ce que vous prescrit, disons, le jugement rationnel, hein, que vous faites dans telle ou telle circonstance. Est-ce que vous pouvez refuser ce que la raison vous dicte? Devez-vous nécessairement assumer ce que la raison vous dicte? L'aristotélicien dit oui. Alors, Buridan est un philosophe qui commente Aristote professionnellement. C'est son travail à la Faculté des Arts de l'Université de Paris. Et il est un des premiers, des principaux commentateurs de l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Avant lui, on a beaucoup commenté d'œuvres d'Aristote, mais il est le premier à avoir donné un commentaire. Enfin, le premier, il est un de ceux qui ont donné le plus important commentaire, disons, de l'éthique à Nicomaque au Moyen-Âge. Et dans le texte numéro 15, vous voyez le type de questions que Buridan est amené à traiter professionnellement. Hein. Question 8 du livre 7 de l'éthique à Nicomaque. La volonté poursuit-elle nécessairement ce que la raison pratique a conclu au terme de sa délibération? Voilà le problème. Je laisse de côté un certain nombre de détails et je me concentre sur quatre réponses de Buridan. La volonté n'est pas libre de vouloir un mal connu ou apparent. La volonté n'est pas libre de vouloir un mal connu ou apparent. La volonté n'est pas libre de nouloir un bien connu ou apparent. Autre manière de dire, la volonté n'est pas libre d'accepter un mal connu ou apparent. La volonté n'est pas libre de refuser un bien connu ou apparent. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que cela ne correspond pas à notre expérience vécue. Hein ? Ça peut paraître contrefactuel. Buridan ignore-t-il cela? Non, évidemment. Et il discute cela, il réfléchit. Et pour ce faire, il évoque un cas précis, qui est celui qu'évoque également Abélard. Et c'est ce cas qu'il faut à présent considérer. Ce cas, c'est l'adultère. les deux philosophes donnent une analyse logique du problème de l'adultère. Enfin, des siècles avant la philosophie analytique, on se dit que l'adultère est d'abord un problème logique. Bon. Chacun dans son propre cadre théorique, puisque d'un côté vous avez Abélard, 12e siècle, Buridan, 14e, il s'est passé beaucoup de choses entre ces deux siècles. Les deux philosophes ont en commun une troisième chose, hein, après le fait d'avoir été évoqués par François Villon tous les deux, et de donner une analyse logique de l'adultère. Je dirais que leur troisième point commun, c'est qu'ils n'en font pas un drame. Je commence par Buridan. Je vous rappelle la thèse de Buridan, vouloir, c'est donner son consentement à un jugement. Donc d'abord un jugement, on analyse la situation, la raison propose... dicte la meilleure solution et la volonté ne peut qu'assentir, consentir, suivre. L'aristotélisme exige, si vous voulez, que si, selon le jugement de la raison pratique, X est reconnu comme un mal, la volonté n'est pas libre de vouloir X. L'adultère est connu comme une mauvaise chose. L'adultère ne peut donc être voulu. Buridan, le héros de la Tour de Nesle, est l'ancêtre d'Edmond Dantès, n'est-ce pas ? Puisqu'après tout, dans son sac, là, jeté dans la Seine, et il finit par ouvrir, d'après la légende, le sac, sortir à la nage, et, bon, tel le comte de Monte Cristo, échapper au juste châtiment. Bon. En tout cas, le héros de la Tour de Nesle a une théorie qui lui permet de rejoindre l'expérience vécue. Donc de concilier Aristote et l'expérience que nous pouvons faire chacun. L'adultère peut être voulu. Comment ? Pourquoi ? Eh bien, c'est la thèse numéro 17. La volonté peut vouloir ce qui, d'une certaine façon, a été jugé mauvais et rejeter ce qui, d'une certaine façon, a été jugé bon. Par exemple, si l'adultère est apparu malhonnête et délectable à la fois, la volonté, malgré la malhonnêteté, peut vouloir l'adultère en raison de la délectation qu'il procure. Ainsi, il est évident que la volonté, dit Buridan, peut vouloir contre une partie du jugement. Donc le jugement de la raison était l'adultère, c'est malhonnête et c'est bon. Enfin, c'est délectable. La volonté peut vouloir contre une partie du jugement. C'est-à-dire contre la partie, c'est malhonnête. Donc une même chose peut être représentée sous deux aspects antagonistes tels que un même X est à la fois présenté comme A et B. Dans le cas de l'adultère apparaît à la fois malhonnête, donc mauvais, et source de plaisir, donc bon. On va dire que X, donc l'adultère, apparaît d'une certaine façon bon, d'une autre mauvais. La volonté peut vouloir ce qui apparaît d'une certaine façon mauvais parce que l'adultère apparaît d'une certaine façon bon, et elle peut vouloir ce qui apparaît d'une certaine façon bon parce que la dite chose apparaît d'une certaine façon mauvaise. Donc la thèse de Buridan est que la volonté peut vouloir contre une partie du jugement. Elle peut vouloir l'adultère. Est-ce que pour autant l'homme peut vouloir l'adultère ? Est-ce que pour autant je peux vouloir l'adultère ? Mais surtout, qu'est-ce que je vais choisir ? C'est bien gentil de dire que la volonté peut vouloir contre une partie du jugement. Mais et après, que se passe-t-il ? Eh bien, ce qu'il se passe, c'est précisément rien. Dans une situation de ce genre, il est urgent d'attendre. Il faut recourir, n'est-ce pas, au non-vouloir. Il faut suspendre le vouloir. Il faut se donner du temps. Non vele. Non vele, c'est se débarrasser à la fois de vouloir commettre l'adultère et de vouloir ne pas commettre l'adultère. Si vous n'avez pas la force d'affronter cela, eh bien, retirez-vous du jeu. Ne veuillez point, si je puis dire. C'est ainsi vous échappez au conflit intérieur. Et, en quelque sorte, la solution, hein, c'est de suspendre le vouloir, comme on peut suspendre son jugement lorsqu'on ne trouve pas la solution d'un problème. Va-t-on en rester là ? Non, bien entendu. On se donne du temps pour faire quelque chose. Quoi ? Eh bien, peser le poids respectif du plaisir et de quoi donc ? De l'honneur. J'ai dit malhonnête. L'adultère, c'est malhonnête. Bon. Il faut peser le poids respectif du plaisir et de l'honneur. Et le plaisir est un bien, certes, mais l'honneur est un bien. Je ne puis vouloir l'adultère que si, après réflexion, dit Buridan, et comparaison des deux biens, l'intellect juge que le plaisir est un bien plus grand que l'honneur. Si et seulement si c'est le cas, hein, eh bien alors je pourrais vouloir l'adultère. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'il y a une hiérarchie des biens et des maux, il y a une échelle des valeurs et l'honneur est un bien plus grand que le plaisir. Il est plus élevé dans la hiérarchie des biens et des valeurs, dirait-on aujourd'hui. Des biens, dit-on, au Moyen Âge. À cela donc, et c'est le dernier mot de Buridan, je dois ajouter, pour compléter l'édifice logique un peu compliqué qu'on a mis en place, une règle qui, elle, est très simple, très claire et très facile à entendre, qui est que je ne puis choisir un bien moindre au détriment d'un bien plus grand. Vous voyez, la vie humaine est enrégimentée par la logique. Il n'est pas possible, pour Buridan, aristotélicien, que la volonté puisse vouloir, en tant que volonté humaine, un bien moindre, alors qu'il y a sur la table, si j'ose dire, un bien plus grand. On ne peut pas vouloir un bien moindre au détriment d'un bien plus grand. Donc la volonté, c'est le texte numéro 18, ne peut jamais choisir un bien moindre au détriment d'un bien supérieur, si celui-ci est accessible, dit Buridan, et s'il peut entrer en ligne de compte, car un bien moindre est mauvais en comparaison d'un bien plus grand. Voilà la stratégie d'un aristotélicien frotté d'éthique à Nicomaque, de logique, d'une logique qui a explosé au XIVe siècle, hein, qui est la discipline reine. Ce n'est pas, et je prends encore 5 minutes si vous le permettez, ce n'est pas cette stratégie que choisit Abélard. Ce n'est pas du tout sous cet angle que le problème est posé dans l'ouvrage intitulé « Connais-toi toi-même, scito te ipsum », qui est son éthique, qui est édité d'ailleurs sous le titre d'éthique et traduite en anglais remarquablement par David Luscombe, Sir David Luscombe. J'aurais pu m'arrêter un instant sur l'iconographie d'Abélard, l'amante d'Héloïse, les images d'Épinal qui ont bercé notre enfance, d'autres images d'Épinal un peu plus d'un goût un peu plus discutable à droite. Un jour, Fulbert, oncle d'Héloïse, les surprit et entra dans une violente colère, jurant de couper court à ses épanchements, enfin bon, etc. Ici, vous avez toujours dans la série « Comment se représente-t-on les héros médiévaux ?» par Angelica Kaufmann, qui est une des fondatrices de la Royal Society of Art, une peintre, suisse du XVIIIe siècle. Vous avez une scène charmante, enfin bon, avec le chanoine Fulbert derrière, bon, qui est derrière un rideau. Maintenant. Là, ce sont des spirites américains qui pensaient avoir vu en rêve Héloïse et Abélard. Et vous voyez cette représentation d'Abélard, enfin, avec ce petit accroche-cœur. Je vous invite à lire dans Mythologie ce superbe passage de « Les Romains au cinéma » de Roland Barthes qui consacre un très savoureux commentaire sur la frange romaine, n'est-ce pas, qu'il y a dans tout film américain où on doit présenter des Romains, n'est-ce pas ? Ils ont tous une frange, et il y a, quand même, je le lis, tant pis, on ne lira pas le reste, mais dans le Jules César de Mankiewicz, tous les personnages ont une frange de cheveux sur le front, les uns l'ont frisé, d'autres filiforme, d'autres huppé, d'autres huilé, tous l'ont bien peigné, et les chauves ne sont pas admis, bien que l'histoire romaine en ait fourni un bon nombre. Ceux qui ont peu de cheveux n'ont pas été quittes à si bon compte, et le coiffeur, artisan principal du film, a su toujours leur soutirer une dernière mèche qui a rejoint elle aussi le bord du front, de ces fronts romains dont l'exiguïté a de tout temps signalé un mélange spécifique de droit, de vertu et de conquête. Qu'est-ce donc qui est attaché à ces franges obstinées ? Tout simplement l'affiche de la romanité. On voit donc opérer ici à découvert le ressort capital du spectacle qui est le signe. Bon, alors, effectivement, je reviens quand même à Bellart, encore appelé le Socrate des Gaules. L'auteur de ce roman était un ministre du général de Gaulle, M. Jacques de Bubridel, breton comme à Bellart. Bon, retour, et pour finir, retour au handout sur Abélard. Alors, Abélard distingue trois niveaux. L'attrait physique, un premier acte de la volonté, un deuxième acte de la volonté. Dans le désir adultère, alors entendez, le désir d'un homme pour une femme mariée, la réciproque n'est pas, pour ne pas dire jamais, évoquée. Hein, en tout cas, chez Abélard, c'est un attrait naturel donc pour la beauté. Vous ne pouvez rien à ça. Cet attrait est naturel. Donc. Et il y a deux actes de la volonté subséquents. Voici la description de la situation. Souvent, dit Abélard, il arrive que, attiré par sa beauté, donc à cet attrait, nous ne pouvons rien, nous sommes attirés, il arrive que, attiré par sa beauté, nous voulons coucher avec une femme dont nous savons qu'elle est mariée. La volonté est nôtre, l'état conjugal de la femme est circonstanciel, il ne dépend pas de nous. Nous avons un vouloir, nous voulons un rapport sexuel, en latin coire. C'est le premier acte de la volonté. Mais il y en a un second, dit Abélard, qui porte sur ces fameuses circonstances, sur ces conditions extérieures qui ne dépendent pas de la volonté. Et la formule en est, non pas je veux, mais je voudrais. En l'occurrence, je voudrais qu'elle ne fût pas mariée. La volonté dans l'adultère s'analyse donc en deux énoncés. Je veux, wolo, v, un rapport avec elle, plus je voudrais qu'elle ne fût pas mariée, vn, welle, donc wolo. Je voudrais qu'elle ne fût pas mariée. Je voudrais que ne pas, hein, nolle. Welle plus nolle. Souvent, il arrive donc que, attiré par sa beauté, nous voulions coucher avec une femme dont nous savons qu'elle est mariée. Pour autant, nous ne voudrions pas tant commettre avec elle l'adultère que nous voudrions qu'elle ne fût pas mariée. C'est très important. L'homme adultère, et c'est le texte numéro 20, n'est pas agent de deux actes mentaux qui s'excluent. Il n'est pas sujet d'un vouloir de X et pas coucher avec une femme, et d'un nouloir de X, vouloir ne pas coucher en acte avec cette femme. Il ne porte pas en même temps et sous le même rapport deux jugements contraires relativement à lui-même. Je veux coucher avec elle et je veux ne pas coucher avec elle. Je veux commettre l'adultère avec elle et je veux ne pas commettre l'adultère avec elle. Pas du tout. En fait, le VN, le nolle, le vouloir ne pas, ne porte pas sur le sujet, mais sur l'objet. Ce qui veut dire que le vouloir est relatif à moi, le vouloir que ne pas est relatif à l'autre. Hein. Et on a donc un vouloir que ne pas qui est relatif à la condition de l'objet, pas à celle du sujet. Je veux coucher avec elle et je voudrais qu'elle ne fût pas mariée. Donc, si vous voulez, cela revient à dire « je veux coucher avec elle, et je voudrais qu'elle fût célibataire, c'est-à-dire soluta. Dans ce cas, tout ce qu'on peut reprocher à ce monsieur, n'est-ce pas, c'est de vouloir la fornication, c'est-à-dire le rapport soluti cum soluta d'une personne célibataire avec une personne célibataire, pas, donc hors mariage. Mais ça n'a donc évidemment aucun rapport avec ce qui est en cause ici. Ce que dit l'adultère ici, dit Abélard, c'est « je voudrais forniquer ». C'est cela son désir. Mais, dit-il, attendez, il y a deux sortes d'hommes adultères. Ceux dont on vient de parler, qui désirent X et qui voudraient que X ne fût pas marié. Et il y a ceux qui veulent véritablement être adultères et pas simplement fornicateurs. En fait, car c'est cela, car c'est là qu'il s'agit, il désire X, telle femme, parce qu'elle est mariée. Il désire X et ne voudrait surtout pas qu'elle ne fût pas mariée. Hein? Ceux-là veulent, dit Abélard, plus d'excès que les autres, ceux qui voulaient simplement avoir un rapport sexuel avec X et préférerait en somme qu'elle ne fût pas mariée. Donc beaucoup au texte 21, beaucoup d'hommes au contraire, pour leur propre gloriole, désirent davantage les femmes des puissants parce qu'elles sont femmes de puissants qu'ils ne le feraient si elles n'étaient pas mariées. Et ils ont plus envie d'être adultères que de forniquer. Ils préfèrent plus à moins d'excès. Plus à moins de transgression. C'est assez beau en latin. Magis quam minus excedere. Voilà, il préfère plus de. Moi je traduis comme je peux, n'est-ce pas, plus de transgression à moins de transgression. Voilà, il veut toujours plus d'excès. Quoi. Bon. Alors, notez bien que ceci, et je conclue là-dessus, ni chez Abélard, ni chez Buridan, il n'y a de conflit entre vouloir et nouloir. Entre willé et nolé. Alors, chez qui y a-t-il conflit entre vouloir et nouloir? Eh bien, là, nous n'avons plus le temps d'en parler, mais ce serait chez Augustin. Et en fait, le problème qui est celui que traite Augustin, c'est le problème que la théologie des Grecs, des pères grecs, a traité à partir du moment où Sergius de Constantinople, 6e siècle, 7e siècle, a posé ce problème, qui est le problème de Gethsémani, n'est-ce pas, en termes logiques, lui aussi, n'est-ce pas. La logique est partout. Vous savez qu'au moment où le Christ se trouve à Gethsémani, il dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi ce calice, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, » et dit dans la phrase qui suit, ou dans la seconde partie de la même phrase, « Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Et donc la question se pose de savoir si, dans le même instant, comme je disais au début de cette intervention, il est possible à la fois de vouloir que quelque chose arrive, la passion, et de vouloir que quelque chose n'arrive pas, autrement dit, la passion, c'est-à-dire la mort sur la croix. Alors, vous avez ce Sergius de Constantinople qui, pour imposer une thèse théologique précise, et qui est qu'il n'y a dans le Christ qu'une seule volonté, la volonté divine, hein, ce qu'on appelle le monothélisme, va soutenir que, face à ce problème, il faut précisément adopter sa solution, mais voilà le problème. Le problème, c'est que le Christ, un seul et même sujet, et il emploie le mot grec hypokeimenon, faisant entrer par là même, pour la première fois, le mot sujet dans l'expression sujet de la volonté. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est à ça que je m'intéresse personnellement, c'est quand commence-t-on à parler de sujet? Si j'ai à ce point esquissé des stratégies logiques, parler de contraire, de contradictoire, de proposition, d'énonciation, etc., c'est pour en venir là. Parce que, effectivement, Sergius de Constantinople explique que le problème qui est posé, c'est que le Christ, un seul et même sujet, est par sa volonté humaine censé résister à sa volonté divine, il y a deux volontés en lui, hein, et dont l'une veut et dont l'autre ne veut pas en même temps et sous le même rapport, et pas la passion salvatrice. Donc, vous voyez, c'est ça le problème. Peut-on vouloir et nouloir en même temps la même chose? Sergius dit non. Et pourquoi non? Eh bien, parce que, précisément, il adapte au sujet de la volonté ce qu'Aristote dit du sujet en général en énonçant le principe de contradiction. Et vous avez cela, et je termine là-dessus, hein, vous avez cela dans l'exemplier, le principe de contradiction, hein, qui est que, alors je ne sais pas à quel numéro je vous l'ai mis, parce que on a sauté beaucoup de choses là. C'est le Psephos. Sergius, il est le numéro 32 pour Aristote. Hein. Il est impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps au même sujet sous le même rapport. Eh bien, Sergius de Constantinople dit, il est impossible qu'il y ait simultanément dans un même sujet deux volontés contraires. Et même, il va plus loin, c'est le numéro 33, il est impossible qu'il y ait simultanément dans un même sujet deux volontés par rapport au même objet. Alors, je termine vraiment là-dessus. Je vous dis que ce qu'il répute impossible, Sergius, et ce qui a lancé une très longue controverse dans l'histoire de la théologie grecque, enfin des pères grecs, dans le monde latin, ceci nous intéresse aussi, pas, les Grecs et les Latins, c'est pas pareil, les pères grecs et les pères latins, c'est pas pareil. Augustin ne dit pas c'est impossible, il dit c'est requis, c'est nécessaire. Il n'y a pas de volonté sans une contre-volonté. Je ne puis pas vouloir sans en même temps nouloir. Mais c'est tout à fait le contraire de la position logique. Parce que, bon, il y a évidemment un autre point de vue philosophique, mais il n'y a pas de volonté sans une contre-volonté qui s'oppose à la volonté, au cœur même de la volonté. Parce que vouloir, c'est à un moment quelconque, hein, une volonté qui prend le pas sur ce qui lui résiste au cœur d'elle-même, hein, sur cette faille cause de péché en l'homme, hein, fait que la volonté n'est jamais tout entière à vouloir ce qu'elle veut. Je ne peux pas vouloir de toute ma volonté. Ma volonté est toujours en défaut par rapport à elle-même. Il lui manque toujours quelque chose pour vouloir pleinement. Hein. Donc, en toute volonté, il y a une contre-volonté qui résiste, s'oppose. Et de cela, on ne peut pas sortir autrement, dit Augustin, que par l'action. Il y a un moment où il faut agir. Donc j'ai commencé par l'actualité, la bataille de la Somme. Je termine par une autre actualité, l'élection du 45e président des États-Unis, je crois, en faisant allusion au premier vice-président des États-Unis et deuxième président en l'occurrence, qui nous a laissé ce slogan, John Adams, thèse numéro 46, Spectemur agendo, let us be seen together in action. Soyons jugés par nos actes. Et je m'arrête là.
Merci beaucoup pour cette conférence. Est-ce qu'il y a des questions? On a le temps pour une ou deux questions, et puis après on pourra parler. Il y a une bouteille de vin là-bas, on peut parler autour d'un verre de vin aussi. Raïda.
Je n'ai pas compris tout à fait la distinction entre 3 et 4 dans le thème sur le parce que il me semble que l'extension de la négation n'est pas tout à fait la même, parce que si dans l'olé, la négation doit porter sur l'objet, il me semble.
C'est vous. Vouloir que ne pas. Ouais. Dans le 4, en fait, mais c'est-à-dire, c'est simple, si vous interprétez nolle comme vouloir que ne pas, ou elle est quod non, disons, S'il n'y a pas de, Welley, ben effectivement, vous n'avez tout simplement ni un ni deux. Donc c'est cela. Mais après, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais la position de repli, disons, par rapport au fait que effectivement V et VN peuvent être faux en même temps, elle n'est possible qu'à partir de 4 non Welley. Hein. Mais effectivement, la négation ne porte pas sur le. Elle ne porte pas sur la même chose, si j'ose dire, c'est mal dit du point de vue logique, mais elle ne. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, si on avait eu un tout petit peu plus de temps, j'aurais pu développer le mais je vous y renvoie simplement, c'est beaucoup plus clair encore quand on regarde ce que ces distinctions sont devenues à l'âge classique. C'est-à-dire dans le débat, c'est très important, le débat de Bramhall et de Hobbes. Donc vous retrouverez ça en gros au paragraphe 22. Hein, Bramhall, l'évêque de Derry, contre Hobbes, soutient qu'au moment où la volonté veut ce qu'elle veut, elle a le pouvoir de ne le pas vouloir, hein, au sens de nouloir, et elle a le pouvoir de différer. Et il explique NV, non-velé, par le terme anglais, le forbear, différer, remettre. Hein. Donc, will, nil, forbear. Vouloir, nouloir, différer. Et Leibniz a critiqué cette thèse, je le rapporte là, en disant, au moment où, non, c'est pas possible, au moment où je veux, je ne peux pas ne pas vouloir ce que je veux. On ne peut pas dire qu'au moment où je veux, je peux encore ne pas vouloir ce que je veux. Et pourtant, thèse 25, ce que dit Dean Scott, qui est au Moyen-Âge, comme toujours, le grand novateur, hein, Dean Scott, dans une phrase qui est facile à retenir, « Wollens in A, potest nolle in A ». Qui veut à l'instant A, peut nouloir à l'instant A. Non pas pouvait avant, non pas pourrait encore après, ou pourra toujours après. Pourra se dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai... Bon. Non, au moment où je veux, je peux, au moment où je veux, je ne, n'est-ce pas, je peux nouloir. Augustin va encore plus loin et dit, au moment où je veux, je ne. Mais simplement, il y a plus de vouloir que de nouloir. Le vouloir prend le pas sur le nouloir. Mais un vouloir qui n'aurait pas de nouloir en lui-même ne voudrait pas vouloir. Pour vouloir vouloir, il faut prendre le pas sur le nouloir qui, dans mon vouloir, résiste à mon vouloir. Vous voyez, ça a l'air fou, mais c'est une question comment dire. Vouloir quelque chose, c'est le vouloir. On dit je veux de toutes mes forces, je veux de toute mon. Augustin dit je veux de toute ma volonté. Mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'il y a le péché. Et ce qui veut en moi se heurte à ce qui en moi ne veut pas. L'homme intérieur est borné, si on peut dire, par cet homme extérieur qui, en lui, tout extérieur qu'il est, en lui, s'oppose à ce que l'homme intérieur, plus intérieur que l'homme extérieur, veut. Quel est l'homme extérieur si proche de moi-même, n'est-ce pas, et pourtant si lointain? C'est mes membres, c'est mon corps, c'est ce qui est, ce qui porte en moi la trace du péché. C'est donc... Alors bon, vous avez tout à fait raison. Vous savez, là vous avez la base logique. Monsieur a raison d'insister là-dessus. Bon, il faudrait revenir là-dessus, regarder de très près, parce que c'est très compliqué. Mais on a oublié, enfin, quelque chose n'a pas été mentionné dans ce que j'ai dit, la faiblesse de la volonté. Ça peut durer, le non-vouloir. Ça peut être une maladie de la volonté. Enfin, je veux dire, ça peut s'appeler Oblomov. Il y a de l'Oblomov en chacun de nous, en tout cas en chacun de moi. Je veux dire, bon, la procrastination, la tendance à remettre, bon, c'est pas seulement Forbert, Thy Bloody Hand, bon, comme dans Marlowe, là. C'est à moi que. Enfin, alors, ça peut, mais il ne faut pas que ça dure. Parce que si ça dure, il faut expliquer pourquoi ça dure. Alors, soit, effectivement, on ne peut pas se déterminer. C'est les célèbres problèmes que l'on pose en termes d'ignorance, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui se réveille, qu'on a placé à son insu dans une chambre noire, etc. Bon, il n'a aucune information sur rien. Donc, bon, laissons ça de côté. Le problème, c'est quand ça dure, alors qu'on a la possibilité d'agir est accessible, que les raisons de le faire le sont, et que tout ce qui doit entrer en ligne de compte le peut. Quand même on ne bouge pas, si je puis dire, eh bien là, il faut expliquer autre chose, c'est-à-dire la faiblesse de la volonté, l'acrasie. Le non-wellé n'est que du temps gagné, c'est le temps de la réflexion, disons. C'est le temps nécessaire, c'est donner du temps au temps, comme disait, non pas Mitterrand, mais Cervantes, qui l'a dit avant lui quand même. Mais les deux l'ont dit de toute façon. Il faut se donner le temps de la réflexion. Mais c'est pour cela que Buridan fait place à ce non-wellé dans un discours éthique. C'est pas pour que ça s'éternise. Il faut agir quand même.